Et on retrouve Antoine Maret pour le journal de la rédaction. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Emmanuel Macron à Strasbourg pour la signature du 15e plan triennal.
Emmanuel Macron qui doit conforter la vocation européenne de la capitale alsacienne. Nous reparlerons de l'Europe de la défense, évoquée hier par le chef de l'État avec notre invité Pierre Haroche, maître de conférence à l'université Queen Mary de Londres. Les taux d'élucidation des crimes et délits s'effondrent en France depuis 2017. C'est ce que révèle une note du ministère de l'Intérieur. C'est en particulier flagrant pour les homicides, les violences sexuelles ou encore les escroqueries et les abus de confiance. Dans l'actualité internationale, des pluies diluviennes ravagent l'Afrique de l'Est depuis plusieurs semaines. La Tanzanie a annoncé la mort de 155 personnes dans des inondations et des glissements de terrain. Des événements extrêmes amplifiés par le phénomène climatique El Niño. Et puis en Italie, l'extrême droite au pouvoir s'attaque à la liberté d'expression. La censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati à la RAI le week-end dernier continue de faire des vagues. Une grève est annoncée à la télévision publique. Après son long discours sur l'Europe hier à la Sorbonne, Emmanuel Macron est ce matin à Strasbourg pour la signature du 15e plan triennal qui permet de conforter la vocation européenne de la capitale alsacienne. Ce nouveau contrat prévoit une allocation de crédit pour financer plusieurs projets entre l'État et les collectivités locales, dont l'école européenne de Strasbourg. Le chef de l'État était déjà présent sur place en 2021 pour la signature du précédent plan, qui avait pour enjeu de maintenir le Parlement européen à Strasbourg. Sur place, on retrouve Olivier Vogel de France Bleu Alsace. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Cette visite intervient un mois et demi avant les élections européennes, des élections à haut risque pour la majorité, le chef de l'État. Est-ce que vous m'entendez, Strasbourg ? Olivier Vogel,
oui, en tout cas, c'est un gros chèque. Oui, en tout cas, c'est un gros chèque pour Strasbourg qu'Emmanuel Macron se prépare à signer dans une demi-heure maintenant. 300 millions d'euros, 110 de plus que le précédent contrat triennal, de l'argent frais pour ces trois prochaines années, pour illuminer en quelque sorte la vitrine européenne de Strasbourg et conforter son statut de siège du Parlement européen, mais aussi du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. L'école européenne où se trouve en ce moment le président est l'une des nombreuses illustrations de l'utilisation de cet argent qui, pour ce qui est de faire briller cette eurométropole, profite aussi à la recherche, à l'innovation ou encore aux institutions culturelles strasbourgeoises comme l'Opéra du Rhin, le Théâtre National ou l'Orchestre Philharmonique. Et puis l'autre grand volet du contrat triennal, c'est l'accessibilité routière, ferroviaire, aérienne ou encore le réseau du tram dans la ville pour améliorer l'existant et rendre les déplacements plus fluides et moins compliqués.
Alors Olivier, est-ce qu'il y a toujours cette crainte de voir Strasbourg perdre son statut de siège du Parlement européen, d'où l'importance de ce contrat triennal ?
C'est la question qu'on a posée au président dès son arrivée ici à l'école européenne. Il a été catégorique. On a pour longtemps consolidé la place du Parlement à Strasbourg, a-t-il dit. Et là où il y avait eu des doutes, il n'y en a plus. Il faut dire aussi que le statut européen de Strasbourg est protégé dans les traités, ce qui n'empêche pas les défenseurs du siège bruxellois de monter régulièrement à la charge pour fustiger les pertes de temps dans les transports, le bilan carbone calamiteux et le montant de ces transhumances mensuelles entre Bruxelles et Strasbourg, que la Cour européenne des comptes avait chiffré à 114 millions d'euros par an.
Merci à vous, Olivier Vogel, en direct de Strasbourg. Invité de ce journal, Pierre Haroche. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Queen Mary de Londres, auteur de « Dans la forge du monde, comment le choc des puissances façonne l'Europe », ouvrage à paraître jeudi prochain chez Fayard. Hier, dans la longue partie de son discours consacré au sujet de la défense et de la sécurité européenne, Emmanuel Macron a longuement décrit le nouveau paradigme que l'invasion de l'Ukraine nous imposerait de bâtir au sein du continent, celui du concept stratégique d'une défense européenne crédible. Alors pourriez-vous d'abord nous dire en quoi consiste cette défense européenne crédible et selon vous, est-ce qu'elle ouvre vraiment vers un changement de paradigme concernant la défense européenne ?
Le changement de paradigme, c'est l'idée que l'Europe doit être capable de se défendre. Et ça, c'est un changement de paradigme que nous impose pas simplement la guerre d'Ukraine, mais aussi toute l'évolution qu'on voit aux États-Unis. Donc ça, c'est sûr que c'est assez lucide de la part du président Macron de dire que on est à un moment où on peut plus reposer simplement sur la dépendance à l'égard des États-Unis. Et même ceux qui sont très attachés à ce lien avec les États-Unis en sont conscients. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a une sorte de convergence historique qui n'était pas forcément anticipée il y a quelques années avec des pays du flanc Est. Le président Macron a aussi dit qu'il allait bientôt signer un traité avec la Pologne, qu'il était maintenant en bonne relation pour faire des projets d'avenir avec les pays du flanc Est. Ça, c'est assez nouveau. Et ça tient d'une part au fait qu'il a fait un effort d'aller vers ces pays depuis le discours de Bratislava de l'année dernière, mais aussi du fait que ces pays sont conscients qu'on ne peut pas simplement se reposer sur les États-Unis. On l'a vu lorsqu'il a fallu voter les crédits pour l'Ukraine et que ça a pris des mois. Il y a beaucoup de gens à Washington qui considèrent que maintenant, ça doit être essentiellement une affaire européenne. Donc ça, c'est un changement de paradigme. La question, c'est comment on y arrive, comment on le finance. Il a aussi parlé de ça, mais là, on est vraiment au début de cette entreprise.
Et quand il évoque un bouclier antimissile européen, est-ce que là, c'est vraiment un changement de position radical pour la France ?
Alors, le changement de position, c'est que les Français ont été un peu réticents devant ce projet annoncé au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les Allemands, qui ont rassemblé beaucoup de partenaires européens autour d'eux, parce que les Français n'ont pas trop cru en ce projet. Ils ont dit, nous, de toute façon, on est défendu par la dissuasion nucléaire. Cette idée selon laquelle il faut se protéger des missiles russes par un bouclier antimissile, c'est pas crédible, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas intéressant. Et après, ils se sont rendus compte, dans un deuxième temps, que les Allemands arrivaient quand même à rassembler beaucoup de monde autour d'eux et qu'ils allaient acheter du matériel qui n'était pas forcément du matériel français. Donc, il y a eu une deuxième tentative, après avoir un peu marginalisé, enfin, avoir cru à l'échec du projet, de dire, bon, on veut proposer, nous, un projet alternatif. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est plutôt de dire peut-être qu'il faut discuter avec les Allemands sur ce projet. Bon, on voit que les Français viennent un petit peu à reculons pour se rapprocher des Allemands. En tout cas, ce serait une bonne chose qu'effectivement il y ait un point de vue européen sur la façon de protéger les Européens de missiles qui pourraient venir de Russie. Le président Macron a dit qu'il fallait en parler dans le cadre d'une initiative de défense européenne. Effectivement, c'est une bonne chose. Après, je dirais qu'il n'y a pas simplement la défense vis-à-vis des missiles. Il y a aussi la capacité d'avoir suffisamment de munitions. C'est un problème qui se pose pour les Ukrainiens aujourd'hui, et on en parle beaucoup, les obus, les drones, les missiles, mais c'est aussi un problème qui se pose pour la défense de l'Europe. Si on a beaucoup de matériel, mais qu'on a des munitions pour 2 semaines, on n'est pas crédible vis-à-vis des Russes, et encore moins si les États-Unis jouent un rôle un peu minoré.
Vous parliez à l'instant de la Pologne. Est-ce qu'il y a un tropisme plus prononcé du président de la République vers l'Europe orientale, notamment à travers un renforcement de nos liens avec la Pologne ?
C'est un tropisme qui est nouveau parce que pendant longtemps, on pouvait dire il y a 2 positions radicalement différentes en Europe. Il y a les Français, partisans de l'autonomie stratégique, un petit peu distants vis-à-vis d'une défense opérée par les États-Unis, et puis qui pensent qu'il y a une vision mondiale aussi tournée vers le Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient. Et puis d'autre part, les Polonais, très pro-américains et très tournés vers la défense continentale. Et aujourd'hui, on voit que ces visions se réconcilient à cause de l'évolution des États-Unis, à cause aussi de l'effondrement de nos positions en Afrique, qui finalement font que la position de la France est plus tournée vers l'Europe. Donc il y a plein de facteurs qui jouent, mais d'une certaine manière, moi je pense que c'est aussi une chance, parce que ceux qui autrefois semblaient dérouler des discours très différents, aujourd'hui sont plus à l'unisson. Et je crois vraiment en ce partenariat France pays du flanc Est, en particulier la Pologne, mais pas uniquement. Il a aussi parlé de l'Estonie, qui a fait des propositions intéressantes en termes de financement de la défense. Et je pense que ça peut être un vrai moteur, qui peut ensuite entraîner les Allemands.
Quand vous parlez des États-Unis, vous faites allusion à la possible réélection de Donald Trump ?
Avant même la réélection de Donald Trump, le fait qu'il ait fallu attendre 6 mois pour voter les crédits pour l'Ukraine, c'était déjà avant même l'élection ou la réélection ou tout ce qu'on veut de Donald Trump, c'était déjà le signe qu'il y a suffisamment de Trumpiens au Congrès des États-Unis pour bloquer le processus. Donc ça, c'est un problème. Évidemment, si Donald Trump est élu, ça explosera de façon encore plus concrète. Mais ça n'est pas un problème qui tient à Trump. Même les démocrates les plus pro-européens disent clairement la priorité, c'est la Chine. Alors, ils n'ont pas une façon de le mettre en œuvre, cette priorité, exactement de la même façon que les républicains ou que les trumpistes. Mais le problème de fond, on ne peut pas le contourner, c'est que l'Europe n'est plus la priorité des États-Unis. Et ça, il faut en tirer les conséquences. Et c'est sûr qu'il faut des capacités européennes et il faut plus de coopération entre Européens.
Merci à vous, Pierre Haroche, d'avoir accepté cette invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation de cette interview.
Les taux d'élucidation des crimes et délits s'effondrent en France depuis 2017.
C'est ce que révèle une note du ministère de l'Intérieur dont le Figaro a pris connaissance ce matin. C'est en particulier flagrant pour les homicides, les violences sexuelles ou encore les escroqueries ou les abus de confiance. Alors, comment interpréter ces chiffres ? Élément de réponse avec vous, Julie Paco.
Effectivement, c'est le cas par exemple pour les homicides, escroqueries et abus de confiance. Là, le taux d'élucidation, Antoine, en un an, a chuté de 12 points en 6 ans, passant pour les homicides de 81 à 69% et de 31 à 19% seulement pour les escroqueries et abus de confiance. Dans le même temps, les taux d'élucidation restent particulièrement bas pour les cambriolages et les vols sans violence. Ils passent de 8% à 7% entre 2017 et 2022. Même résultat en Berne pour les vols de véhicules. Alors faut-il y voir une baisse de l'efficacité policière sous le premier mandat d'Emmanuel Macron ? Eh bien, ce n'est pas si simple, répond le sociologue et directeur de recherche au CNRS, Sébastien Rocher.
Le taux d'élucidation n'est pas une mesure de l'efficacité policière parce qu'il fait une division entre deux quantités. Le nombre de personnes qui ont été suspectées par la police d'avoir commis un crime divisé par le nombre total de crimes dans cette catégorie. Il ne traduit pas l'effort policier. C'est quelque chose qui n'est pas très souvent bien compris par le ministre lui-même ou par les policiers.
Et car si l'élucidation des crimes et délits est en baisse, dans le même temps, leur nombre a augmenté, tout comme celui des policiers et gendarmes. 10 000 postes créés sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Or, ces moyens visent surtout à mettre du bleu sur le terrain, souligne Yann Bastière, délégué national du syndicat Unité.
Le président de la République en avait fait un axe et un élément de langage fort lors du Beauvau de la sécurité. On a renforcé les gens sur la voie publique, mais en revanche, les services d'investigation sont les parents pauvres aujourd'hui de la police nationale. Il manque un nombre très important. Le ministre de l'Intérieur a même parlé de 5 000 OPJ, officiers de police judiciaire, qui manquaient. Donc lorsque vous n'avez pas la ressource pour traiter les enquêtes, eh bien l'impact est très important sur le taux d'élucidation.
Cette baisse des élucidations cache enfin une autre réalité préoccupante, celle du nombre de dossiers en souffrance. L'année dernière, 2 700 000 procédures étaient toujours en attente de règlement, rien que dans les commissariats de police.
Merci à vous, Julie Paco. Ce n'était pas une décision facile à prendre, c'est ce qu'a dit ce matin sur France Info la PDG de Nexity. Véronique Bédague justifie ce plan de sauvegarde de l'emploi en évoquant une crise conjoncturelle et la hausse des coûts de construction suite à la guerre en Ukraine. Le promoteur immobilier avait annoncé la veille la suppression de 502 postes. Isabelle Raymond.
Les premiers départs auront lieu à l'automne. 502 emplois au total, c'est 20% des effectifs du pôle promotion-construction le plus important de Nexity. Le groupe compte aujourd'hui 4500 personnes. C'est le plan social le plus conséquent annoncé par un promoteur ces derniers mois. Mais des suppressions de postes ont aussi été actées dans d'autres entreprises du secteur, Vinci et Bouygues Immobilier notamment. Comme ses concurrents, Nexity souffre de la crise du logement avec des matériaux en hausse, des normes environnementales de plus en plus strictes et des élus parfois réticent, constate le secteur. Le nombre de réservations de logements neufs s'est effondré de 30% sur un an fin 2023. Les professionnels demandent un coup de pouce de l'État quand l'exécutif, lui, attend plutôt une amorce de baisse des taux d'intérêt et une baisse des prix.
Trois premiers cas de choléra autochtones ont été identifiés à Mayotte. 10 cas importés avaient été recensés depuis mi-mars chez des migrants provenance notamment des Comores voisines. L'annonce a été faite par l'Agence régionale de santé.
On en vient à l'actualité internationale et à ces pluies diluviennes qui ravagent l'Afrique de l'Est depuis plusieurs semaines.
La Tanzanie a annoncé la mort de 155 personnes dans des inondations et des glissements de terrain. Des événements extrêmes amplifiés par le phénomène climatique El Niño, Véronique Rebérotte.
La Tanzanie, mais aussi le Burundi, la Somalie et le Kenya. La saison des pluies en Afrique de l'Est sous l'effet d'El Niño est partout meurtrière. C'est en Tanzanie que le nombre de victimes est pour l'instant le plus élevé, avec au moins 155 morts, mais aussi des centaines de blessés. Les autorités ont recensé 10 000 habitations endommagées et de nombreuses infrastructures comme des routes, des ponts ou des voies ferrées rendues inutilisables suite aux intempéries. À cause des inondations au Kenya, 40 000 personnes ont dû être déplacées dans le pays depuis le début de la saison des pluies, en mars dernier. Au Burundi, ce sont près de 100 000 personnes qui ont dû bouger en raison de précipitations quasi incessantes depuis des mois. Des zones entières restent menacées car les prévisions ne sont pas bonnes pour les jours à venir. L'Afrique de l'Est en général devrait encore connaître des précipitations supérieures à la normale la semaine prochaine à cause d'El Niño. Outre une augmentation des températures, le phénomène climatique naturel El Niño amplifie les sécheresses dans certaines parties du monde et provoque de fortes pluies dans d'autres. Commencé au milieu de l'année 2023, ce nouvel épisode d'El Niño, aux mêmes conséquences déjà observées par le passé, pourrait durer jusqu'au mois prochain. Pas d'accalmie avant fin mai, prévient l'Organisation météorologique mondiale.
Aux États-Unis, la Cour suprême, pourtant majoritairement conservatrice, semble hermétique aux arguments en faveur de l'immunité pénale absolue souhaitée par Donald Trump. Mais la décision des sages pourrait encore retarder le procès fédéral de l'ex-président candidat. Donald Trump est visé par 4 procédures pénales distinctes et il fait tout pour passer en jugement le plus tard possible, après le prochain scrutin présidentiel. S'il était de nouveau élu, il pourrait ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre, Valérie Crova.
L'affaire pour laquelle l'avocat de Donald Trump a été entendu devant la Cour suprême concerne sa tentative d'inverser les résultats de l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Si les 9 juges de la plus haute juridiction américaine semblent tous d'accord pour ne pas accorder une immunité absolue à Donald Trump, certains s'inquiètent du précédent que leur décision pourrait créer pour les futurs locataires de la Maison-Blanche. « Nous rédigeons une règle pour la postérité », a lancé l'un d'entre eux. 4 des juges ont laissé entendre qu'ils souhaitaient poser des limites aux poursuites engagées contre des anciens présidents et définir une forme d'immunité qui pourrait aller au-delà de leur mandat. Quelle pourrait être cette immunité? C'est justement pour prendre le temps d'y réfléchir que les juges ont décidé de reporter leur décision à la fin du mois de juin ou au plus tard début juillet. L'affaire pourrait être renvoyée devant une autre juridiction, ce qui retarderait encore l'ouverture d'un procès prévu initialement en mars. Un calendrier qui offre un nouveau répit aux candidats républicains à la présidence, à défaut d'obtenir une victoire totale qu'aurait représenté pour lui l'affirmation de son immunité totale par la Cour suprême.
En Italie, l'extrême droite au pouvoir s'attaque à la liberté d'expression. La censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati à la RAI le week-end dernier continue de faire des vagues. Elle était au cœur de l'anniversaire de la libération de l'Italie hier, qui marque la chute définitive du fascisme. Une grève est annoncée à la télévision publique italienne. À Rome, la correspondance de Bruno Duvic.
Si l'idée était de le réduire au silence, c'est raté. Antonio Scurati enchaîne les interviews et le monologue qu'il devait prononcer samedi à la télévision a été lu lors d'une pléiade de rassemblements lors de la fête de la Libération. Il a lui-même participé à celui de Milan pour dénoncer le refus de Giorgia Meloni de se dire antifasciste.
Je crains que tant que cette parole antifascisme ne sera pas prononcée par ceux qui nous gouvernent, le spectre du fascisme continuera d'infecter la maison de la démocratie italienne.
La présidente du Conseil a publié un texte sur les réseaux sociaux. Avec la fin du fascisme, la libération a posé les bases pour le retour de la démocratie. Nous redisons notre aversion pour tous les régimes totalitaires et autoritaires. Mais il n'y a pas trace de cette parole antifasciste, plus volontiers revendiquée par la gauche, mais que son ministre des Affaires étrangères, plus modéré Antonio Tajani, a prononcé hier. Nous avons une constitution antifasciste, a-t-il rappelé. À la RAI, le principal syndicat annonce une grève le lundi 6 mai contre le contrôle asphyxiant des journalistes et la volonté de réduire la télévision publique à un porte-voix du gouvernement.
Censure également au Burkina Faso. Les militaires au pouvoir depuis un coup d'État ont suspendu 2 semaines la BBC et Voice of America pour avoir relayé des accusations d'exactions commises par l'armée dans son combat contre les djihadistes. Cette suspension des radios britanniques et américaines suit celle prise à l'encontre de plusieurs autres médias étrangers. depuis l'arrivée au pouvoir par un coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Et puis en Ukraine, de la détention provisoire pour un membre du gouvernement soupçonné de corruption. Le ministre de l'Agriculture est accusé de s'être approprié des terrains appartenant à l'État. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis avant son entrée au gouvernement. Cet après-midi, temps couvert, voire pluvieux sur la majeure partie du pays. Seule la pointe bretonne et une partie de la côte méditerranéenne profiteront de belles éclaircies. Les températures restent fraîches. 11 à Brest, 15 à Paris, 18 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet. Prochain journal à 18h avec Nicolas Ballut.